Écho d'économie.
Le ministre des Finances a annoncé lors du dernier Conseil des ministres la suspension du paiement de la dette publique intérieure, cela pour atténuer l'explosion des dépenses publiques enregistrées à la fin du mois de janvier 2023. Troisième reportage de notre série sur les assurances en RDC. Aujourd'hui, nous parlons des défis et opportunités que présente ce marché en République démocratique du Congo. Et l'invité de l'économie à ne pas rater est Christian Kazumba pour parler de l'importance de l'accompagnement de petites et moyennes entreprises africaines dans le développement de leurs activités. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi a annoncé au dernier Conseil des ministres que la RDC avait opté pour la suspension du paiement de la dette publique intérieure, cela pour faire face à l'évolution qualifiée de préoccupante des dépenses publiques. Nicolas Kazadi a précisé cela lors de la 87e réunion du Conseil des ministres que les dépenses publiques au cours du mois de janvier 2023 ont laissé un déficit de 496 milliards de francs congolais. Nous en parlons avec vous, Cynthia Bachizi. Alors Cynthia, comment expliquer cette situation ?
Daniel, en janvier 2023, les dépenses publiques se chiffraient à 1,659 milliards de francs congolais. Mais les recettes mobilisées étaient faibles. Cela a créé ce déficit de 496 milliards de francs congolais. Une situation occasionnée principalement par les dépenses sécuritaires, la mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État, ainsi que le fonctionnement des institutions, selon le ministre Kazadi. L'État a dû ainsi puiser dans ses bons de trésor, mais aussi dans les appuis budgétaires des bailleurs pour combler ce déficit.
Ainsi, pour faire face à ces dépenses publiques galopantes, le ministre des Finances propose au gouvernement notamment de ralentir les dépenses de fonctionnement jugées non contraignantes et limiter au strict minimum les dépenses effectuées en mode cash, mais aussi et surtout la suspension du paiement de la dette intérieure. Qu'est-ce que cela veut dire, la dette intérieure, Cynthia ?
La dette intérieure, c'est toute somme d'argent que l'État doit aux opérateurs nationaux, privés comme publics. Alors, il y a plusieurs types de dettes. Je vais m'attarder sur quelques-unes. Nous avons la dette sociale, c'est à titre illustratif, le retard dans le paiement des salaires ou dans le paiement de frais de mission. Nous avons la dette commerciale. L'État peut consommer des services auprès des opérateurs privés, voire publics. Par exemple, une délégation gouvernementale qui séjourne dans un hôtel dans le cadre d'une mission de service. Si l'État tarde à honorer les factures liées à ce séjour dans cet hôtel, généralement après 2 ans, cela est reversé dans la dette publique intérieure. Mais vous avez aussi des opérateurs publics qui livrent des services à l'État. C'est ainsi que vous pouvez entendre parfois que l'État doit de l'argent à la SNEL ou à la SCTP, ex-ONATRA, etc. Et enfin, la dette financière issue des émissions des valeurs du Trésor qui, elle, n'est pas concernée par cette suspension de paiement.
Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette dette publique intérieure ?
Plusieurs raisons, Daniel. Cela peut être un problème de trésorerie, voire un besoin d'ajustement structurel décidé par la Troïka, Finance, Budget et Banque Centrale, ou alors une mesure conservatoire pour répondre à une exigence du FMI.
À coup sûr, la suspension du paiement de cette dette intérieure ne peut manquer d'avoir d'effet sur l'économie congolaise, Cynthia.
Comme vous pouvez le deviner, Daniel, le principal effet, c'est surtout celui de voir les opérateurs être impactés négativement dans leurs affaires. Ces opérateurs, ils ont fourni un service en échange d'une somme d'argent qui n'arrive pas. Cela crée un trou dans leur trésorerie et vous pouvez donc imaginer tout le stress qui en découle. Mais cette suspension peut avoir aussi un impact positif si elle permet à l'État de formaliser les paiements et corriger ainsi l'opacité autour de la chaîne de paiement des dettes.
Merci Cynthia Bachizi pour tous ces détails. C'est aujourd'hui le troisième jour des assises de la 47e Assemblée Générale de la FANAF, la Fédération des Sociétés d'Assurance de Droit National Africaine. Travaux ouverts depuis lundi à Kinshasa. Écho d'économie en marge de cette session poursuit sa série de reportages thématiques sur le secteur des assurances en RDC. Après vous avoir présenté l'état des lieux du secteur, la cartographie des acteurs ainsi que des produits proposés sur le marché des assurances en RDC, nous chutons aujourd'hui sur les défis et opportunités que présente le marché des assurances en RDC. Cynthia Bachizi Nabizana pour le décryptage.
Le marché des assurances progresse de façon exponentielle, mais cela reste encore faible au regard des ambitions affichées par l'autorité de régulation et contrôle des assurances ARCA. Le cabinet d'études Target avait révélé dans une de ses enquêtes que les polices d'assurance les plus souscrites en RDC sont l'assurance automobile, l'assurance vie et l'assurance santé. Depuis la libéralisation du secteur, le marché d'assurance est passé de 70 millions de dollars américains en 2018 à plus de 268 millions de dollars américains en 2022, chiffre communiqué par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Mais ce secteur peut devenir l'un des plus importants d'Afrique. Pour ce faire, les parties prenantes, le régulateur, les assureurs et les intermédiaires doivent travailler à relever certains défis, notamment corriger la mauvaise perception dont souffrent les assurances au sein de l'opinion congolaise. Et pour y arriver, selon Nicolas Kazadi, cela demande nécessairement le respect de la réglementation, le respect des tarifs minimums, la présentation des produits adaptés et appropriés au public et le respect des engagements, notamment par le paiement diligent des prestations par les entreprises d'assurance.
Et en plus bref, sachez que l'Observatoire de la dépense publique demande au gouvernement de la RDC de supprimer le BCECO, Bureau central de coordination. Il le juge obsolète aujourd'hui à côté de l'autorité de régulation des marchés public RMP et de la Direction générale de contrôle des marchés publics DGCMP. Au président de la République, l'ODEP demande de doter l'RMP et la DGCMP des sièges appropriés où elles pourront bien faire leur travail. L'existence du BCECO, selon l'ODEP, étouffe les deux institutions. L'Observatoire pense que la suppression de ce bureau central de coordination va permettre à l'RMP et la DGCMP d'alléger les difficultés qu'elles connaissent aujourd'hui dans l'exercice de leurs fonctions.
Écho d'économie.
Place à l'invité de l'économie. Et l'invité de l'économie ce soir est Christian Kazumba, un Congolais qui dirige au Gabon un cabinet d'études et d'investissement. Nous parlons avec lui de la problématique d'accompagnement des petites et moyennes entreprises en Afrique centrale qui s'avère aujourd'hui être une question stratégique, les PME étant considérées comme moteurs de croissance et de création d'emplois dans une économie. Christian Kazumba, bonsoir. Que pensez-vous de la stratégie d'accompagnement des petites et moyennes entreprises aujourd'hui en Afrique?
Eh bien, écoutez, oui, je confirme que c'est un sujet qui est très important. Pour l'illustrer, on peut rappeler qu'aujourd'hui, en moyenne, dans les pays émergents, les PME représentent au moins 90% du secteur privé formel et entre 60 et 70% de la création d'emplois. Donc, vous voyez, avec ces quelques chiffres, on comprend bien que derrière cette question de développement de l'écosystème entrepreneurial en Afrique centrale, eh bien, il y a des enjeux extrêmement forts en termes de création d'emplois, en termes de lutte contre la pauvreté et en termes aussi d'essor des classes moyennes locales. Donc, il est extrêmement urgent et important de mettre en place des dispositifs fiables et professionnels pour accompagner le développement de l'écosystème de nos PME.
Quels seraient, Christian, à ce jour, les principaux besoins en accompagnement des PME africaines, vous qui œuvrez dans l'étude du marché et investissement?
Pour ce qui concerne les besoins d'accompagnement, vous savez, chaque projet présente des spécificités, des particularités. D'ailleurs, je suis convaincu que les porteurs de projets et les chefs d'entreprise qui nous écoutent seront d'accord avec ça. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand nous accompagnons une PME, on commence toujours par une phase d'audit qui va durer quelques semaines. Et cette phase d'audit, elle a pour objectif principalement de bien cerner, d'une part, le niveau de maturité de votre projet, mais aussi vos besoins d'accompagnement. Et suite à cette phase d'audit, nous élaborons un plan d'action que nous faisons bien évidemment valider avec le chef d'entreprise et que nous implémentons avec lui de manière tout à fait opérationnelle. Bon, néanmoins, pour essayer quand même de répondre à votre question de manière générale, moi je constate très souvent que les besoins d'accompagnement de nos PME portent déjà sur l'aspect chiffre. Alors l'aspect chiffre, ça englobe déjà la comptabilité. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais vous aurez beaucoup de mal à obtenir un financement sans une comptabilité aux normes et sans une comptabilité professionnelle. Et l'aspect chiffre, ça va englober aussi tout ce qui est reporting, tout ce qui est tableau de bord, absolument indispensable pour piloter vos opérations au mieux. Et sur ces deux sujets, oui, je constate qu'il y a bien souvent des carences et en tout cas que les besoins d'accompagnement sont tout à fait importants. Un autre domaine où les besoins d'accompagnement sont en général très importants, c'est sur la vision à long terme. Le fait d'avoir une vision à long terme, c'est tout simplement le fait de savoir où votre entreprise doit être dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 4 ans. Et ça va vous permettre notamment de bien sélectionner les opportunités que vous devez saisir et celles que vous ne devez pas saisir. Dans une ville comme Kinshasa, vous le savez fort bien, les opportunités sont nombreuses. Sauf que certaines opportunités ne sont pas faites pour vous, parce que vous n'avez pas l'expertise, parce que vous n'avez pas, eh bien, les ressources financières ou les ressources humaines pour bien les traiter. Donc le fait d'avoir une vision, ça va vous permettre justement de bien sélectionner les opportunités qui sont en adéquation avec cette vision et donc que vous pourrez traiter avec un maximum de chance.
Pensez-vous que l'accès au financement suffirait pour que les PME africaines marquent leur impact sur l'économie du continent, Christian?
Oui, bien évidemment, l'accès au financement de nos PME est un sujet absolument crucial et primordial. Malheureusement, dans notre pays, en République démocratique du Congo, eh bien, les financements bancaires accordés à l'économie ne représentent que 6 ou 7% du produit intérieur brut. Autrement dit, quand vous êtes un porteur de projet, quand vous êtes un chef d'entreprise congolais, vous avez toutes les peines du monde à obtenir un financement, et en particulier un financement bancaire. Mais, quoi qu'il arrive, ce que l'on peut dire, c'est que le financement, c'est une question de confiance. Donc, si vous voulez optimiser vos chances d'obtenir un financement, il va vous falloir générer de la confiance, que vous vous adressiez à une banque, que vous vous adressiez à un fonds d'investissement, à un business angel ou à une institution de microfinance. Et pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, si vous voulez générer de la confiance, il vous faudra démontrer à votre interlocuteur que vous avez des chiffres crédibles, c'est-à-dire une comptabilité crédible. Il vous faudra lui démontrer que vous avez une vision et que vous avez également dans votre entreprise les bases organisationnelles. Alors, vous avez des programmes d'accompagnement tout à fait performants qui existent en République démocratique du Congo et que l'on appelle les programmes d'incubation et d'accélération et qui vont vous permettre justement de vous accompagner sur ces différents sujets.
Christian Kazumba, merci et merci à vous, chers auditeurs et internautes de Radio Capi. Écho d'économie se referme et vous pouvez le réécouter au plaisir sur www.radiookapi.net.